3. L'expédition d'Erebor. Pour une claire compréhension de l'histoire, on se rapportera au récit donné dans l'appendice A, 3, le peuple de Durin, du Seigneur des Anneaux, dont voici les grandes lignes. Lorsque le dragon Smaug descendit sur la montagne solitaire, Erebor, le nain Thror et son fils Thrain, ainsi que le fils de Thrain, Thorin, surnommé par la suite l'écu de chêne, s'enfuirent par une porte dérobée. Thror remit à Thrain le dernier des 7 anneaux des nains, puis il retourna à la Moria, et là fut tué par l'orque Azog, qui lui marqua le front de son nom. Telle fut l'origine de la guerre des nains et des orques, qui s'acheva par la grande bataille d'Azanul-Bizar, Nandu-Irion, devant la porte est de la Moria, en l'année 2799. Thrain et Thorin, l'écu de chêne, vécurent par la suite dans les Ered-Luin, mais en l'année 2841, Thrain quitta ses montagnes pour retourner à la montagne solitaire. Errant dans les contrées à l'est de l'Anduin, il fut capturé et emprisonné à Dol Guldur, où l'anneau lui fut pris. En 2850, Gandalf s'introduisit à Dol Guldur et découvrit que le maître des lieux n'était autre que Sauron, et là trouva également Thrain peu avant sa mort. Il existe plusieurs versions de l'expédition d'Erebor, comme l'explique l'appendice qui fait suite au texte, où figurent aussi d'importants extraits d'une première version. Je n'ai trouvé aucun écrit précédant les premiers mots du texte actuel. Il ne voulut pas en dire plus long ce jour-là. Le « il » de la première phrase désigne Gandalf. Le « nous » renvoie à Frodo, Pérégrin, Meriadoc et Gimli. Et le « je » est Frodo, qui consigna la discussion. La scène se passe dans une maison à Minas Tirith, après le couronnement du roi Elessar. Il ne voulut pas en dire plus long ce jour-là. Mais plus tard nous reprîmes le sujet et il nous conta toute l'étrange histoire. Comment il vint à arranger l'expédition d'Erebor, pourquoi il pensa à Bilbo et comment il persuada le fier Thorin l'écu de chêne d'accepter le Hobbit dans sa compagnie. Je ne puis me ressouvenir de toute l'histoire à présent, mais nous comprîmes que, au départ, Gandalf ne songeait qu'à la défense de l'Ouest contre l'ombre.
« J'étais très inquiet à cette époque, » dit-il, « car Saruman contrait tous mes projets. Lorsque j'ai rencontré Thorin, je savais depuis longtemps que Sauron avait ressurgi, et j'étais convaincu qu'il ne tarderait pas à se manifester. Je savais qu'il préparait une grande guerre. Par où commencerait-il ? Tenterait-il d'abord de réoccuper le Mordor ? Ou allait-il attaquer les principales places fortes de ses ennemis ? Je pensais alors, et à présent j'en suis certain, que son plan originel était d'attaquer la Lorienne et Fandeval dès qu'il en aurait les moyens. C'eût été pour lui le coup le plus judicieux et bien plus redoutable pour nous. Vous croyez peut-être que Fandeval était hors d'atteinte, mais quant à moi je ne le pensais point. Les choses allaient très mal dans le Nord. Le royaume sous la montagne et les puissants hommes du Val n'étaient plus. Rien n'entraverait le passage des troupes que Sauron pouvait envoyer pour reconquérir les cols au nord des montagnes et les anciennes terres d'Angmar, hormis les nains des collines de fer, et derrière eux se trouvaient une désolation et un dragon. Et si Sauron venait à se servir de Smaug, l'effet serait dévastateur. Souvent je m'étais dit, il faut trouver moyen de régler son compte à Smaug. Mais il y a plus urgent encore, et c'est de frapper directement Dol Guldur. Il nous faut brouiller les plans de Sauron, je dois convaincre le conseil de cette nécessité. Telles étaient mes sombres ruminations, tandis que j'allais mon chemin. J'étais fatigué, et je me rendais en comté pour prendre un bref repos, et cela après une longue absence de plus de 20 ans. Je pensais que si je pouvais un temps ne plus songer à tous mes soucis, il me viendrait peut-être à l'esprit un moyen de les résoudre. Et c'est ce qui arriva en effet, bien qu'il ne me fût guère loisible de n'y plus penser. Car comme j'approchais de Brie, je fus rattrapé par Thorin l'écu de chêne qui vivait alors en exil au-delà des frontières nord-ouest du comté. À ma grande surprise, il m'adressa la parole, et c'est à partir de ce moment-là que tout vint à changer. Il était aussi en souci, en si grand souci qu'il alla jusqu'à me demander de le conseiller. De sorte que je l'accompagnais jusqu'à ses demeures dans les montagnes bleues, et là j'écoutais sa longue histoire. Et je compris bientôt que son cœur saignait des outrages qu'il avait subis et de la perte du trésor de ses pères, et que lui pesait également le devoir dont il avait hérité, le poussant à chercher vengeance contre Smaug. Car les nains prennent très au sérieux ce genre d'obligation. Je promis de l'aider si je le pouvais. J'étais aussi désireux que lui de voir Smaug anéanti. Mais Thorin n'avait que guerre et bataille en tête, tout comme s'il était réellement le roi Thorin II, et je ne percevais nul espoir dans ses plans. Or donc je le laissai, et je gagnai directement le comté. Et là je m'enquis des dernières nouvelles. Et ce fut une étrange affaire. Je ne fis guère que suivre les indices du hasard, et je commis bien des erreurs en cours de route. D'une certaine manière, j'avais été attiré vers Bilbo longtemps auparavant, durant son enfance et comme jeune hobbit. La dernière fois que je l'avais vu, il n'était pas encore majeur. Mais je le gardais toujours en mémoire, avec son ardeur, ses yeux brillants, sa passion des contes et des histoires, et ses questions sur le vaste monde hors du comté. Et dès que j'atteignis le comté, voilà que j'entendis parler de lui. On parlait beaucoup de lui, me sembla-t-il. L'un et l'autre de ses parents étaient morts jeunes pour des gens du comté, vers l'âge de 80 ans, et ils ne s'étaient jamais mariés. Et ils devenaient déjà un peu bizarres, disait-on, et s'en allaient tout seuls des jours durant. On pouvait le voir converser avec des étrangers et même avec des nains. Même avec des nains. Dans mon esprit, soudain, les trois éléments se conjuguèrent. Le puissant dragon avec sa convoitise, son ouïe acérée et son odorat subtil, les nains trapus avec leurs grosses bottes et leurs vieilles et brûlantes rancœurs, et le vif hobbit aux pieds légers et au cœur plein, je le devinais, d'un languir du vaste monde. Et je ris pour moi-même et partis sur le champ voir un peu ce Bilbo et découvrir ce que 20 années avaient fait de lui et s'il était aussi prometteur que ce que la rumeur laissait croire. Mais il n'était pas chez lui. Et à Hobbitville, on hocha la tête quand je manquis de lui. « Encore parti !» dit un hobbit. Holman, le jardinier, je crois. « Encore parti ! Un de ces jours, il s'en ira pour de bon s'il n'y prend garde. Et moi qui lui demandais où il s'en allait comme ça et quand il comptait revenir. « Et je n'en sais trop rien, me fit-il, et il m'a jeté un drôle de regard. « Cela dépend si j'en rencontre, Holman, me dit-il. « Demain, c'est le nouvel an des elfes. « Dommage, un si bon gars. Vous n'en trouverez pas de meilleur entre les coteaux et la rivière. « De mieux en mieux, pensais-je. « Je crois bien que je vais risquer le coup. « Le temps pressait. Je devais me rendre au Conseil Blanc en août, au plus tard. Ou alors Saruman ferait la loi et on n'aboutirait à rien. Et même en dehors des choses véritablement graves, cela pouvait avoir des conséquences fatales pour l'expédition. Le pouvoir qui régnait à Dol Guldur ne tolérerait aucune tentative du côté d'Erebor, à moins qu'il ne fût occupé ailleurs. Et me voilà qui retourne au galop trouver Thorin pour me confronter à une tâche bien difficile. Le persuader de laisser de côté ses grandes ambitions et de partir secrètement, et de prendre Bilbo avec lui. Et cela, sans même avoir vu Bilbo au préalable. Et ce fut une erreur qui devait se révéler quasi désastreuse, car Bilbo, comme il va de soi, avait changé. Disons qu'il était pour le moins devenu goulu et pansu, et que de ses désirs d'avant, il ne lui restait plus guère que de secrètes rêveries. Et rien n'aurait pu lui être plus consternant que de voir ses rêves soudain se réaliser. Il en fut tout ahuri, et il se rendit complètement ridicule. Thorin serait parti en fureur si ce n'avait été pour un autre hasard, pour le moins étrange, dont je vais parler d'ici peu. Mais vous savez comment les choses se sont déroulées, du moins du point de vue de Bilbo. Si j'avais écrit cette histoire, elle aurait été tout autre. D'abord, parce qu'il ne vit aucunement à quel point les nains le trouvaient sot, ni à quel point ils étaient fâchés contre moi. Thorin était bien plus indigné et méprisant qu'il ne s'en rendait compte. Méprisant, en vérité, il l'était d'emblée, et il pensait alors que j'avais manigancé toute l'affaire dans le seul but de faire rire à ses dépens. La carte et la clé seulement vinrent sauver la situation. Mais elle m'était sortie de l'esprit depuis des années, et ce ne fut pas avant d'arriver en comté et d'avoir eu le loisir de réfléchir au récit de Thorin que je me rappelais soudain le hasard singulier qui me les avait mises entre les mains. Et voici que cela prenait moins couleur de hasard. Je me remémorais un périlleux voyage que j'avais accompli, 91 ans auparavant, lorsque je m'étais introduit dans Dol Guldur à la faveur d'un déguisement et avait trouvé gisant là un malheureux nain à l'agonie dans l'écu de Basphos. Je n'avais eu aucune idée de qui il s'agissait. Il possédait une carte qui avait appartenu au peuple de Durin en Moria et une clé qui semblait aller avec la carte, bien qu'il n'ait pu fournir aucune explication. Et il disait qu'il avait eu un anneau. Cela revenait constamment dans son délire. « Le dernier des sept », répétait-il sans arrêt. Mais toutes ces choses, il avait pu se les approprier de diverses manières. Ce pouvait être un messager intercepté dans sa course, ou même un voleur emprisonné par un autre plus fort que lui. Mais il me donna la carte et la clé. « Pour mon fils », dit-il. Il mourut avant que je m'évade moi-même et je cachai ces objets. Obéissant à un quelconque avertissement de mon cœur, je les gardais toujours sur moi, en sécurité, mais presque oubliés, car j'avais autre chose à faire à Dol Guldur et des choses bien plus importantes et périlleuses que tous les trésors d'Erebor. Mais à présent ils me revinrent en mémoire, et je compris que j'avais assisté au délire moribond de Thrain II, fils de Thror, même s'il n'avait pu prononcer son propre nom ou celui de son fils. Et quant à Thorin, il ignorait, bien entendu, ce qu'il était advenu de son père, et il ne mentionna jamais le dernier des sept anneaux. J'étais en possession d'un plan et d'une clé permettant d'accéder à Erebor par une entrée secrète, celle-ci même, à en croire les dires de Thorin, qui permit à Thror et Thrain de s'échapper. Et je les avais gardées, bien que sans intention définie, jusqu'au moment où elles se révéleraient utiles. Heureusement, je ne commis aucune erreur en l'usage que j'en fis. Je les gardais comme atout dans ma manche, comme vous dites en comté, et cela jusqu'à ce que tout espoir semblât révolu. Dès que Thorin les vit, il se résolut fermement à suivre mon plan, du moins en ce qui concernait l'expédition secrète. Quoi qu'il pût penser de Bilbo, il serait parti tout seul. L'existence d'une porte secrète que seuls les nains pouvaient trouver laissait au moins espérer qu'on découvrirait quelque chose des agissements du dragon, et, qui sait, peut-être pourrait-on récupérer de l'or ou des trésors de famille dont la possession apaiserait le languir de son cœur. Mais à moi, cela ne me suffisait pas. Je savais en mon cœur qu'il fallait que Bilbo l'accompagnât, faute de quoi toute l'expédition échouerait, ou comme je l'exprimerai maintenant, les événements de bien plus haute conséquence qui devaient s'accomplir incidemment n'auraient pas lieu. De sorte qu'il me restait encore à persuader Thorin de l'emmener. Maints dangers et difficultés nous attendaient sur la route, mais je crois que le plus dur pour moi fut cela. Nous en discutâmes tard dans la nuit, après que Bilbo fut allé se coucher, mais ce n'est qu'au lendemain matin que l'accord finit par se faire. Thorin était méprisant et soupçonneux. « C'est un mou, » maugréa-t-il, « aussi mou que la boue de son comté, et un sot par-dessus le marché. Sa mère est morte trop tôt. Vous jouez votre propre jeu là-dedans, maître Gandalf. Je suis sûr que vous nourrissez d'autres intentions que celles de m'aider. »« Vous avez parfaitement raison, » répondis-je. « Si je n'avais pas d'autres visées, je ne vous aiderais pas du tout. Aussi importante qu'elle puisse vous paraître, » vos affaires ne sont qu'un fil ténu dans une vaste trame. Et moi, je m'occupe de plusieurs de ces fils. Mais cela devrait donner plus de poids à mes arguments et non l'inverse. Et je me pris soudain à parler avec ardeur et dis, Écoutez-moi bien, Thorin, l'écu de chêne. Si ce hobbit vous accompagne, vous réussirez. Sinon, vous échouerez. J'en ai le présage et je vous mets en garde.
Je connais votre réputation, répondit Thorin, et j'ose espérer qu'elle est méritée. Mais cette sotte histoire de hobbit me fait un peu douter. Est-ce bien là un présage ou bien un petit grain de démence plutôt que de clairvoyance? De si graves soucis pourraient bien vous avoir dérangé l'esprit.
Ils sont certainement assez nombreux pour que ce soit le cas, répondis-je. Et mon souci le plus exaspérant est ce nain orgueilleux qui vient me demander mon avis, sans que je sache au nom de quoi je le lui dois, et qui me parle ensuite avec insolence. Faites-en à votre tête, Thorin l'écu de chêne, si vous voulez. Mais faites fi de mes conseils, et vous irez tout droit à la catastrophe. Et n'attendez de moi ni conseil ni secours jusqu'à ce que l'ombre s'abatte sur vous. Et modérez votre orgueil et votre avidité, sinon, quel que soit votre chemin, vous finirez par tomber, quand bien même vos mains seraient pleines d'or. »
Il blêmit un peu à ces mots, mais ses yeux flambèrent.
« Inutile de me menacer, dit-il. J'userai de mon propre jugement dans cette affaire comme dans toute autre. »«
Libre à vous, dis-je. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Sauf peut-être ceci. Je ne suis pas prodigue d'amour et de confiance, Thorin. Or, j'ai de l'affection pour ce hobbit, et je lui veux du bien. Traitez-le noblement, et vous aurez mon amitié jusqu'à la fin de vos jours. »
Je disais cela sans grand espoir de le persuader, mais c'était ce qu'il fallait dire. Les nains ne mésestiment pas le dévouement entre amis, ni la gratitude envers ceux qui leur viennent en aide.
« Très bien, » finit-il par dire après un silence. « Il se mettra en route avec les miens. »
Si tant est qu'il l'ose, ce dont je doute.
Mais puisque vous êtes si résolu de me l'imposer, vous devrez nous accompagner et prendre soin de votre chouchou.
Très bien, répondis-je. Je viendrai, et je resterai avec vous aussi longtemps que je le pourrai, au moins le temps qu'il faudra pour que vous découvriez sa valeur. Au bout du compte, ce fut une heureuse idée, mais dans l'instant cela me causa un grand souci, car j'avais sur les bras une affaire bien plus urgente, le Conseil Blanc. C'est ainsi que débuta l'expédition d'Erebor. Je doute fort que, se mettant en route, Thorin ait eu le moindre espoir véritable de tuer Smaug. Tout espoir était vain, et pourtant, cela arriva. Mais hélas, Thorin ne survécut point pour jouir de son triomphe ni de son trésor. L'orgueil et l'avidité eurent raison de lui, malgré tous mes avertissements.
Mais Thorin aurait très bien pu tomber au combat, même sans cela, n'est-il pas? Dis-je. L'assaut des orques devait avoir lieu, que Thorin se montre généreux de son trésor ou non.
C'est vrai, dit Gandalf. Pauvre Thorin. C'était un noble nain, issu d'une illustre maison, quels qu'aient pu être ses défauts. Et bien qu'il ait succombé au terme de sa route, ce fut pour une large part grâce à lui que le royaume sous la montagne fut rétabli comme je le souhaitais. Mais en Dane Pied-de-Fer, il trouva digne successeur, et voilà qu'on nous dit qu'il est tombé au combat lui aussi devant Erebor, et cela pendant que nous combattions ici même. Je dirais que c'est une lourde perte, si ce n'avait été un miracle qu'à son grand âge, il ait pu encore manier la hache, à ce qu'on dit, aussi redoutablement, se tenant là, debout, au-dessus du corps du roi Brand, devant la porte d'Erebor, jusqu'à ce que les ténèbres s'étendent. Sans doute tout cela aurait pu être bien différent. L'attaque principale, il est vrai, fut déviée vers le sud. Mais malgré cela, avec sa main droite portant au loin, Sauron aurait pu faire de terribles ravages dans le nord, tandis que nous défendions le Gondor, si le roi Brand et le roi Dane ne lui avaient pas barré la route. Lorsque vous penserez à la grande bataille du Pélénor, n'oubliez pas la bataille du Val. Pensez à ce qui aurait pu se passer, au feu du dragon et aux épées déchaînées en Eriador. Et nulle reine au Gondor, nous aurions pu revenir victorieux du combat avec le seul espoir de trouver un champ de ruines et de cendres. Mais cela fut évité, parce qu'un soir, au seuil du printemps, je rencontrai Thorin l'écu de chêne non loin de Brie. Une bienheureuse rencontre, véritablement, comme nous disons en terre du milieu.